Quand on regarde l'histoire de l'industrie en général, il y a toujours un point de bascule qui est fascinant.
Ouais, un moment où tout change.
Exactement. Il suffit de se représenter les tout débuts de l'automobile, par exemple. T'as un mécanicien, seul dans son atelier, qui serre chaque boulon à la main, qui règle le moteur à l'oreille et qui installe les sièges un par un.
C'est du pur sur-mesure pour le coup.
C'est ça. Mais le gros inconvénient de ce modèle, bah, c'est que sans ce mécanicien pour dicter et exécuter chaque petite étape, il n'y a rien qui avance. La production dépend entièrement d'une intervention humaine séquentielle.
Bah, c'est le goulot d'étranglement ultra classique, en fait. L'humain est le moteur exclusif du process.
Complètement.
Il agit, il observe le résultat de son action, il réfléchit à l'étape d'après, et il recommence. C'est très linéaire, très qualitatif si l'artisan est bon, certes, mais totalement impossible à mettre à l'échelle.
Et puis vient l'invention de la chaîne de montage automatisée. Soudainement, l'ingénieur ne construit plus la voiture directement avec ses propres mains.
Il construit la machine qui va la construire.
Exactement. Il conçoit l'environnement et les processus. Et dans notre décryptage d'aujourd'hui, notre mission, c'est de disséquer une bascule strictement identique qui vient tout juste de se produire dans le monde de l'intelligence artificielle, là, pendant l'été 2026.
Ouais, on tourne une énorme page.
Oui, on tourne la page de l'artisanat, du fameux prompt engineering, pour entrer de plain-pied dans l'ère vraiment industrielle du loop engineering. Et c'est un sujet capital pour les consultants et les clients de Monsieur Guise, qui accompagnent ces transformations sur le terrain au quotidien.
Ah bah le changement de paradigme est total, hein. Historiquement, le travail consistait à passer des heures à peaufiner un prompt unique, tu vois.
Ouais, la fameuse instruction magique.
Voilà, une instruction textuelle millimétrée pour essayer de forcer le modèle d'IA à recracher la réponse parfaite du premier coup. Mais le loop engineering, l'ingénierie des boucles, ça abandonne complètement cette quête du prompt parfait.
Du coup, c'est quoi la nouvelle approche?
L'idée, c'est de concevoir un système autonome qui va détecter un besoin, distribuer le travail à des agents, vérifier factuellement les résultats, mémoriser les erreurs et décider tout seul de la prochaine action. Et ça tourne en continu jusqu'à atteindre un objectif mesurable.
Ok, décortiquons tout ça. Parce que si on passe d'un humain qui guide la machine pas à pas à un humain qui construit le circuit complet sur lequel la machine va évoluer, de quelles pièces mécaniques ce circuit est-il composé en fait?
Alors, le point de départ, il nous vient d'Adi Osmani, un ingénieur de chez Google, qui a théorisé cette fondation de façon hyper claire.
D'accord.
Pour lui, faire du loop engineering, c'est créer un système qui remplace carrément la personne qui prompte l'agent. On ne gère plus un appel isolé ou une session de chat, on gère un système récurrent, multisession.
Un système autonome, quoi.
C'est ça. Et la première brique de ce système, bah, ce sont les automatisations ou les déclencheurs.
Ce qui veut dire que l'agent ne s'active plus seulement quand quelqu'un clique sur un bouton générer ou tape une question.
Non, le système prend l'initiative, c'est ça qui est dingue. Une boucle peut s'activer parce que un nouveau ticket de support technique a été créé ou parce qu'une mise à jour de code a été détectée sur un serveur à 3 heures du matin.
Ah ouais, donc il bosse pendant qu'on dort.
Exactement. Et à partir de ce déclencheur, la boucle va s'appuyer sur des skills, donc des compétences. Concrètement, c'est des bibliothèques de contexte qui injectent au modèle la connaissance spécifique de l'entreprise pour éviter qu'il n'invente des procédures génériques.
Oui, pour éviter les fameuses hallucinations. Mais il faut aussi que ces agents aient un endroit sûr pour travailler, non? Pour pas tout casser en production.
C'est là qu'interviennent les work trees. C'est des environnements de travail virtuels totalement isolés. Imagine que plusieurs agents travaillent en parallèle sur le même dossier.
Ouais.
Bah, ils doivent le faire dans des espaces séparés pour pas se marcher sur les pieds ou corrompre les données des autres agents. Et pour agir sur le vrai monde, ces espaces sont reliés par des connecteurs.
Des API, en gros.
Des API, tout à fait. C'est le pont numérique qui permet à l'agent de lire un message Slack, interroger une base client ou publier un truc.
Donc, si je résume, on a un déclencheur, un contexte, un espace sécurisé et des outils pour agir. On a tout là, non?
Presque. Il reste deux éléments qui sont vraiment critiques. D'abord, la séparation des rôles. On cimente toujours le faiseur du vérificateur.
L'agent qui rédige ne valide pas son propre texte.
C'est la règle d'or. Et ensuite, il y a la gestion de la mémoire, et c'est vraiment le nerf de la guerre. Le système doit se souvenir de ce qu'il a tenté avant sans avoir à relire toute l'historique. Parce que relire des milliers de lignes de contexte en permanence, ça coûte une fortune en puissance de calcul.
C'est clair. Bah, tu vois, ça me fait revenir à mon analogie de la conduite. Avec une voiture manuelle, ce qui correspondrait au vieux prompt engineering, le conducteur gère tout. L'embrayage, les vitesses, le freinage.
Ouais, il est sursollicité.
Mais le loop engineering, bah, c'est concevoir l'ordinateur de bord d'une voiture autonome. On programme le système pour qu'il surveille le trafic, recalcule l'itinéraire s'il y a des travaux, gère la batterie et arrive à bon port. Le contrôle s'est vraiment déplacé de l'exécution immédiate vers la stratégie globale.
L'analogie marche super bien. Le métier d'ingénieur passe de la micro-gestion d'une tâche à l'architecture pure et dure d'un système de décision.
La théorie est hyper élégante, mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce que nos sources nous montrent que l'été 2026 a littéralement transformé ces concepts en produits finis. On assiste à une guerre totale entre les géants de la tech autour de ce qu'ils appellent le harness. C'est bien ça, Alan ?
Oui, le harness, le harnais en français. Ça désigne en fait l'enveloppe d'exécution qui va entourer le modèle d'IA brut pour le faire tourner en boucle.
Et avant, c'était compliqué à mettre en place.
Très compliqué. Pendant longtemps, chaque entreprise, chaque consultant devait coder ce harnais à la main. C'était instable, ça prenait un temps fou. Et la bascule s'est produite quand AWS a lancé son Agent Core Harness en GA, donc en disponibilité générale.
C'est devenu une infrastructure managée, du coup.
Exactement. AWS te propose l'enveloppe clé en main. La gestion de la mémoire, les environnements de test, tout est déjà préconfiguré.
D'accord, mais j'imagine qu'AWS n'est pas le seul sur le coup.
Loin de là. Databricks a répliqué très très fort en ouvrant le code d'une solution qui s'appelle Omnigen. Et leur approche est intéressante parce que c'est un control plane, une couche de gouvernance suprême.
Pour chapeauter plusieurs IA différentes.
C'est ça, c'est crucial pour les grandes entreprises qui utilisent Claude d'un côté, Codex de l'autre, et qui ont besoin d'une seule enveloppe de sécurité pour auditer ce que ces agents ont le droit de faire ou non.
Ouais, c'est indispensable. Mais ce qui me frappe, c'est que cette logique de boucle, elle s'intègre même au niveau de l'utilisateur individuel maintenant. Regarde GitHub.
Ah, l'intégration dans VS Code!
Oui, ils ont bouclé la boucle directement dans l'éditeur de code le plus utilisé au monde. C'est plus juste un petit chatbot sur le côté, c'est un agent avec un contexte de 1 million de tokens en GA.
1 million ? C'est colossal !
Pour donner une idée, ça équivaut à injecter des dizaines de livres techniques entiers ou tout le code source d'un énorme logiciel dans la mémoire immédiate de l'agent.
Et le pire, c'est que l'intégration va au-delà du texte. L'agent, dans GitHub, il peut écrire une feature, ouvrir un navigateur web caché en arrière-plan, cliquer sur les boutons qu'il vient de coder.
Il teste son propre code visuellement.
Ouais.
Il constate que le menu déroule en bug, il lit l'erreur et il corrige son code tout seul, sans que le développeur humain ait levé le petit doigt. La boucle est fermée.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais attendez, je vais me faire l'avocat du diable deux secondes.
Je t'en prie. Si AWS, Databricks et GitHub se battent à coups de milliards pour vendre cette enveloppe, ce fameux harnais, est-ce que ça veut dire que le modèle de langage lui-même, le cerveau, devient limite secondaire face à la boucle qui l'entoure ?
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que les données chiffrées de cet été apportent une réponse catégorique à cette question. Et c'est oui.
Vraiment ?
L'IA en elle-même devient moins importante que son infrastructure.
Les preuves sont irréfutables. Le framework Noah, publié par NVIDIA en juillet, montre des métriques assez dingues. Ils ont fait des benchmarks stricts en gardant exactement le même modèle d'IA de base, donc l'intelligence brute était fixe.
D'accord.
Eh bien, ils ont découvert qu'en modifiant juste l'architecture du harnais, ils obtenaient des écarts de performance à deux chiffres. En optimisant juste la mémoire à court terme dans le harnais, le taux de réussite global est passé de 38,4% à 85,1%. Non mais attends, c'est plus du double, avec le même modèle de base.
Le même modèle, c'est l'organisation du travail qui fait la différence, pas l'intelligence brute.
C'est fou.
Et l'illustration la plus extrême, c'est l'expérience de Towards Data Science, ou TDS. Ils ont voulu isoler l'impact pur de la boucle. Ils ont carrément construit un contrôleur déterministe.
C'est-à-dire ?
Une boucle avec observation, action, révision, mais pilotée uniquement par du code en dur, des armes de décision. S'il se passe A, alors fait B.
Attends, il n'y avait aucun modèle d'IA génératif dans la boucle de contrôle.
Zéro. Aucun LLM. Ils ont confronté cette boucle mécanique sans cerveau à un pipeline linéaire traditionnel qui, lui, utilisait un LLM ultra puissant pour tout résoudre d'un coup.
Et les résultats ?
Sur 300 tests, la boucle sans IA a complété en moyenne 3,3 branches complexes sur 10. Le pipeline surpuissant avec IA reste seulement 0,4.
Oh la claque, ça prouve vraiment que la méthode de résolution écrase la connaissance pure, en fait.
Complètement. Une architecture qui s'est décomposée, isolée une erreur et réessayée, ça bat un oracle censé tout deviner du premier coup. L'Université des Nations Unies l'a aussi prouvé, avec l'autocorrection.
Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Que l'autocorrection dite intrinsèque, où tu demandes au modèle de réfléchir sur sa propre réponse pour trouver son erreur, ça marche très mal. Le modèle tourne en boucle sur ses biais.
Il s'enferme dans sa propre logique.
Mais l'autocorrection ancrée, elle, est redoutable. La boucle exécute le code dans le vrai monde, récupère la vraie erreur du système informatique et la jette à la figure du modèle en disant « corrige ça ». Là, même un tout petit modèle local devient surperformant.
Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comme une brigade dans une cuisine étoilée.
Ah, j'aime bien cette image.
Le LLM, c'est le chef cuisinier. Il a l'inspiration, les recettes, mais la boucle, c'est la brigade, les process, l'hygiène, le timing. Tu prends un chef de génie, tu le mets seul dans une cuisine dégueulasse et désorganisée, il va planter son service.
C'est sûr.
À l'inverse, un chef juste moyen, encadré par une brigade militaire et des process parfaits, il te sortira des plats exceptionnels à chaque fois.
C'est exactement ça. L'enjeu, c'est plus d'avoir le meilleur chef, c'est de concevoir la meilleure cuisine.
Ah ben du coup, ça soulève un gros problème pour la production. Pour des secteurs qui détestent le risque, comme les banques, lâcher des agents autonomes en boucle, ça ressemble à un cauchemar de sécurité. Comment ils encadrent ça?
Ah bah, ils rigolent pas avec ça. Le retour d'expérience de la banque Santander est un vrai manuel de survie. Ils ont imposé des règles draconiennes avant de passer à l'échelle.
Quel genre de règles?
Déjà, des conditions d'arrêt explicites et des plafonds d'itération stricts.
Logique, pour éviter qu'un agent boucle à l'infini sur une API payante et te facture des millions pendant le week-end.
C'est la peur de tout le monde. Les coûts explosifs. Mais la règle la plus vitale chez Santander, c'est le rapport à la vérité. Ils obligent l'agent à se reconnecter régulièrement à des sources de vérité externes.
Plutôt que de relire son propre historique de conversation.
Exactement. Si un agent relit ses propres notes et qu'il a fait une micro-erreur à l'étape 2, à l'étape 5, l'erreur devient énorme. C'est l'effet boule de neige des hallucinations.
Il faut le forcer à regarder la réalité en face. Ça rejoint d'ailleurs une grosse critique que j'ai lue sur HackerNull contre ce qu'ils appellent la « vibe orchestration ».
L'orchestration au feeling, oui. L'article détruisait cette mode naïve de lancer un agent codeur, un agent testeur, et de prier pour que ça s'autorégule.
Apparemment, ça finit toujours par halluciner.
Toujours. La solution qu'ils proposent vient de la doctrine militaire, Red Cell.
La cellule rouge.
Oui. Tu intègres dans ta boucle un agent synthétique adverse, dont le seul but, la seule récompense, c'est de détruire et trouver les failles dans le travail des autres agents. Si l'agent valide son propre travail sans vérificateur externe, ça part dans le mur.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Concrètement, pour nos auditeurs, les consultants produits, comment ils font chez un client pour savoir si un cas d'usage est prêt à être mis en boucle ou si c'est juste de la science-fiction?
Le test est hyper simple. C'est la notion d'objectif vérifiable automatiquement.
C'est-à-dire?
Si pour valider la tâche, tu as besoin qu'un humain regarde et dise « Ah, le ton du texte est sympa » ou « Ce bouton est joli », c'est mort. C'est pas mûr pour l'autonomie.
Faut que ce soit binaire.
Oui. Est-ce que le code passe les tests? Est-ce que la base de données renvoie une erreur? Si c'est vérifiable techniquement, la boucle peut s'auto-évaluer. Sinon, tu restes sur un simple assistant.
C'est un excellent filtre. Par contre, je me dis, maintenir l'état, la mémoire de milliers de boucles en permanence, pour garantir tout ce contrôle, l'infrastructure serveur derrière doit être monstrueuse, non?
Bah, paradoxalement, c'est tout l'inverse. C'est même le point le plus surprenant de cette évolution. Alors que les boucles deviennent super complexes, l'infra redevient ultra frugale.
Comment ça, Tink? On abandonne les usines à gaz du cloud?
Exactement. Cloudflare l'a prouvé avec son moteur Obelisk. L'industrie pensait qu'il fallait des files d'attente cloud ultra lourdes genre Kafka pour gérer ses agents. Cloudflare a tout jeté pour utiliser de simples fichiers SQL.
Des petites bases de données locales, c'est tout.
Oui, couplées à LitoStream. Et le résultat est dingue. Ils sont passés de 400-500 instances concurrentes à 50 000 de manière hyper stable. La simplicité back-end revient en force.
Mais comment ils gèrent le coût de la mémoire de l'agent à chaque itération? Le fameux coût quadratique qui explose.
Avec ce qu'on appelle le Ralph Loop. C'est devenu la norme. En gros, au lieu de traîner tout l'historique, l'agent fait un résumé synthétique, le sauvegarde dans un fichier local et on efface toute sa mémoire vive.
Ah, on réinitialise l'état à chaque fois.
Voilà. La boucle suivante démarre fraîche, lit juste le résumé et avance. Le coût reste plat.
Et j'imagine que cette frugalité, c'est ce qui permet d'envisager la couche d'après. Parce qu'en juillet 2026, on a vu émerger une nouvelle taxonomie. On parle déjà de graph engineering.
Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, oui, c'est la suite logique. Le prompt contrôle une réponse. Le loop contrôle le cycle d'un agent. Et le graphe, ça contrôle l'organisation de plusieurs agents entre eux.
Je vais faire mon sceptique. Mais on n'est pas juste en train d'inventer un nouveau buzzword tous les 6 mois pour vendre du conseil, là? Prompt, puis loop, puis graphe?
Bah, c'est la grande blague dans les communautés tech en ce moment. Mais au-delà du jargon, ça décrit une vraie ascension dans l'abstraction. Si tu as une boucle spécialisée en marketing et une autre spécialisée en droit pour la conformité, il faut bien qu'elles négocient entre elles.
Et le Graph Engineering, c'est concevoir ce réseau de communication.
C'est ça. C'est l'échelle macro de l'entreprise.
Eh bien, si l'on synthétise tout ça pour les consultants et clients de M. Guise, le message clé est clair. Le métier a radicalement muté. On ne passe plus son temps à peaufiner des textes magiques.
Non, c'est fini, ça.
On conçoit des architectures, des déclencheurs, des limites budgétaires, et on met en place des vérificateurs impartiaux. L'IA est passée d'un rôle purement réactif à un rôle proactif autonome.
Et cela soulève une question importante pour clôturer cette analyse.
Je t'écoute.
À mesure que ces graphes d'agents vont orchestrer d'autres boucles en totale autonomie, avec leur propre budget, à quel moment l'ingénieur produit cesse de concevoir un logiciel pour devenir, en fait, le manager d'une entreprise virtuelle peuplée d'employés synthétiques.
C'est vertigineux.
Est-ce que les consultants de demain auditeront encore du code, ou est-ce qu'ils devront auditer la culture d'entreprise de tout un réseau d'IA? Je laisse la question ouverte.
La question est posée, on passe définitivement du code au management systémique. C'est tout pour cette plongée au cœur du Loop Engineering. Merci d'avoir suivi ce décryptage.